Une expérience fondatrice, la douleur et le risque, la marche, c'est la règle de trois de David Le Breton. En 1969, il a 16 ans et vit une expérience fondatrice. Il prend son sac à dos et traverse l'Europe en autostop et à pied. Il dort dans les parcs, les terrains vagues, parfois sous les ponts. « Je me sentais extrêmement mal, je voulais disparaître », dit-il. Après cette période d'errance, il part au Brésil dans l'intention de lutter contre la dictature militaire. « Je voulais voir le sang couler quand je serais blessé ». Une fois sur place, il abandonne l'idée et continue à parcourir le pays en quête de lui-même. Un jour, il navigue sur le fleuve Amazon et sur le pont du bateau se produit un déclic. Il ouvre les yeux et pense « Je décide de vivre ». Il rentre en France, poursuit des études supérieures de psychologie, puis devient docteur en sociologie. Une partie conséquente de ses travaux porte sur la douleur et sur le risque. En 1991, il publie « Passion du risque », essai captivant dans lequel il étudie ses comportements à risque adoptés pour se sentir exister ou pour s'effacer.
Dans ce livre, j'avais parlé de blancheur pour caractériser notamment les jeunes en errance. Et j'avais analysé donc l'errance sur les routes comme une manière de disparaître justement à l'intérieur des interstices du social.
David Le Breton s'intéresse à l'adolescence. Un jeune sur cinq est en grande détresse en Occident selon l'INSERM. Mais il traite également de manière plus générale les pathologies contemporaines liées à l'accélération. C'est le cas notamment dans « Disparaître de soi », livre paru en 2016 et qui s'ouvre par cette citation de Henri Michaud, « Celui qui n'accepte pas ce monde n'y bâtit pas de maison ». Parmi les remèdes qui permettent de supporter, voire d'accepter ce monde, il préconise la marche. Professeur à l'université de Strasbourg, il la pratique dans le massif des Vosges, le lac de Pierre-Percée, le gazon du Fin, les crêtes, le sentier des roches.
La marche, évidemment, c'est retrouver la sensation du monde, retrouver les odeurs, retrouver le son, par exemple, comme l'âge.
Comme aujourd'hui, on entend les oiseaux. Les oiseaux voilà.
Dans Marcher la vie, son troisième livre consacré à la marche, David Le Breton ajoute « Dans un lien social marqué par les affrontements et la concurrence individuelle, marcher renoue avec la civilité et la solidarité ».
Vous êtes impressionnant, David Le Breton. Hein, la vie et la pratique se confondent, vous êtes pétri d'humanité. Mais on va évoquer cette tribune que vous avez fait paraître dans le Monde, c'était le 11 mai, je crois, dernier, il y a un petit peu moins d'un mois, où vous évoquiez le problème que vous posait le masque en tant que comme qui réfléchit au lien social. Vous disiez le masque défigure le lien social. Comment, pourquoi ?
Alors, le visage, c'est le lieu de notre singularité, finalement. C'est ce qui nous distingue les uns les autres. Et c'est ce qui nous permet d'être reconnus, d'être identifiés, d'être nommés, d'être identifiés à un âge, à un sexe. Et donc, c'est ce qui également alimente la conversation. Parce que quand nous parlons, par exemple, l'un et l'autre, on regarde sur le visage de l'autre quelles sont les mimiques qui traversent les traits, les signes. Et donc, on va réguler, d'une certaine manière, notre propos en fonction de ce qu'on ressent de l'autre. D'ailleurs, le visage, pour moi, c'est le lieu fondamental de l'empathie, de la compassion. C'est extrêmement difficile d'être en empathie avec quelqu'un qui est dissimulé derrière son masque. Donc il y a une défiguration effectivement du lien social qui fait qu'on ne sait plus très bien sur quel pied danser parce qu'on ne sait plus très bien non plus qui on a devant soi. Et puis comme les gestes barrières et les ritualités ordinaires sont également mises en question, on est dans une phase qu'on appelle en anthropologie de liminalité, c'est-à-dire d'entre-deux, où on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. Quand on a perdu les repères d'avant, avant le confinement, et on n'a pas les repères qui vont venir dans les mois qui viennent, quand on sera davantage dans une accoutumance. Enfin, j'espère que le masque aura disparu entre-temps.
Justement, Claude veut vous en parler.
Ah oui,
vous inquiétiez, avant même cette crise, de la disparition de nos corps, parce qu'on est devant nos ordinateurs, oui, parce que l'exercice n'est plus là, il devient un loisir superfétatoire. On va travailler chez nous, on ne bouge plus pour aller au travail, on ne nous voit plus. Est-ce qu'au fond, il y a une continuité? Cette crise n'aurait été qu'un accélérateur de notre propre disparition charnelle?
C'est vrai qu'on est entré dans l'ère de l'humanité assise, d'une certaine manière. On passe notre temps assis, notre corps devient quasiment superflu, et le confinement a multiplié par mille, finalement, cette immobilisation, cette sédentarité qui caractérise nos sociétés. À un moment donné, je me suis dit que nous étions devenus des hikikomori occidentaux. Les hikikomori, vous savez, ce sont ces jeunes japonais qui s'enferment dans leur chambre et qui n'en sortent plus pendant des mois, voire des années. En revanche, ils sont en lien avec le monde entier. Ils sortent plus de leur chambre, mais ils sont en lien avec le monde entier via les réseaux sociaux. Et chacun d'entre nous, pendant le confinement, nous étions un peu dans cette figure-là, d'être là sans plus y être, d'avoir un corps, mais qui ne nous servait plus à grand-chose d'une certaine manière, hormis pour des tâches assez fonctionnelles. Donc je crains effectivement que le corps ne soit encore davantage, le statut du corps ne soit encore davantage mis à mal par la pandémie, puisque le corps est devenu d'ailleurs le lieu de tous les dangers, de toutes les menaces. Les gestes barrières nous indiquent que nous devons nous tenir à distance des autres, etc.
Alors, on va évoquer justement être assis et télétravailler.
Oui, au boulot, mais en visio, Zoom.
Oui,
on peut le dire comme ça, parce que cette crise sanitaire, vous le disiez, elle a ébranlé notre manière de travailler ensemble, puisqu'on ne travaillait plus vraiment ensemble. En 2019, ce télétravail, ça concernait seulement 3% des salariés, soit 1 700 000 Français environ aujourd'hui. Et malgré cette phase 2 du déconfinement, c'est 5 millions de personnes qui travaillent seules depuis leur domicile. C'est un phénomène mondial. Ça ne concerne pas que la France, évidemment. Et on le voit en particulier dans l'univers de la tech, chez les géants du numérique, puisque Twitter va autoriser ses salariés à travailler à vie depuis chez eux. Facebook veut 50% de télétravailleurs d'ici 5 ans. Ce télétravail, il explose. La surveillance des salariés aussi, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui ont recours à des mouchards pour vérifier qu'on clique bien et suffisamment sur la souris. Et tout ça, ça doit contribuer aux effets pervers du télétravail sur la santé psychologique des personnes. Ça a été documenté dans plusieurs études. La moitié des salariés font part d'un sentiment d'isolement. Certains disent qu'ils ont l'impression d'être devenus invisibles vis-à-vis de leurs collègues et de leur hiérarchie. Donc on voit bien ce que ça peut abîmer. Est-ce que ça peut aussi nous conduire à quelque chose de l'hyper-individualité où finalement on reste seul les uns avec les autres, on travaille ensemble, mais à chacun de son côté. Qu'est-ce que ça abîme vraiment dans tout ça?
Moi, je pense que c'est un cran supplémentaire dans l'individualisation du lien social, l'individualisation du sens, et puis en plus, les gestes barrières en ce moment, on rajoute encore, puisque quand on chemine dans la ville, par exemple, on a notre espèce de forteresse autour de nous, de 1 mètre.
C'est balisé d'ailleurs, sur le sol.
En plus, tout est balisé, etc. Donc on est chacun, le lien social devient un archipel infini de millions de gens qui se croisent sans jamais se rencontrer, puisque la présence a disparu avec la disparition du visage.
Alors donc, une façon de résister et de ralentir, c'est la marche. Mais alors, ça pourrait être la marche, évidemment, pas masquée, et la marche, non pas dans l'idée d'un déplacement, c'est l'objet de cet essai très poétique, très actif, dynamique, mais la marche dans quelle optique?
Ben, marcher, d'abord,
se réapproprier son corps, se réapproprier l'environnement.
C'est multiple, finalement, les significations de la marche. C'est renouer avec son corps, mais c'est renouer aussi avec la sensorialité du monde, puisque dans le monde urbain, dans le monde de la ville qui est le nôtre, on n'a plus énormément de choses à sentir, à voir, à goûter, etc. Mais quand vous marchez dans les Vosges ou ailleurs, vous êtes confronté à un univers d'odeurs extraordinaires, à la contemplation du monde, vous êtes confronté à la beauté du monde, vous retrouvez le silence.
On peut se perdre.
Ça fait partie du jeu. Je crois que dans la marche, il faut se perdre régulièrement. C'est souvent quand on se perd qu'on voit les choses les plus inattendues et les plus belles, d'ailleurs. Et puis, c'est renouer avec un sentiment d'appartenance avec le monde, avec le cosmos. Vous vous sentez vraiment vivant, vous vous sentez réel. Et puis, en termes de sociabilité, quand vous croisez d'autres marcheurs, eh bien, vous leur souriez. Vous échangez un salut.
Quand vous dites marcheur, tout de suite, ça évoque une image politique. Pardon, David Le Breton, mais évidemment, on n'est pas du tout dans ce contexte. Non. Une dernière toute petite question, Claude.
Un tout petit peu politique. Oui. Au tout début de votre vie, vous vouliez aller vous battre contre la dictature brésilienne. Le président Bolsonaro est un héritier de cette dictature. Oui. Paradoxalement, sur les questions du masque, sur la question du corps, sur la question de la présence physique, il est dans le même camp que vous. Comment vivez-vous ce paradoxe?
Le même camp que moi, non.
Il est encore charnel, il ne veut pas être masqué, il ne veut pas des gestes barrières.
Ah oui, non, mais je ne me reconnais absolument pas du tout dans ce personnage qui est.
Mais que se passe-t-il si seuls les populistes admettent encore que nous avons un corps qui transpire et le risque est admis?
Non, ils sont plutôt là dans la dénégation justement des dangers. Il y a une légitimité du masque, mais elle est provisoire. Il ne faut absolument pas qu'on s'installe dans cette sociabilité extrêmement malencontreuse, surtout pour les enfants, d'ailleurs pour les tout-petits qui sont en train d'apprendre que c'est dangereux de toucher le corps de leurs petits copains, qui doivent se laver les mains en permanence. Non, là, avec des gens comme Bolsonaro, on est dans une sorte d'infamie. Il conduit le Brésil au bord du précipice. La plupart des Brésiliens sont terrifiés de ce qui est en train de se passer. Il fait des bains de foule, vous le savez, il dit que la pandémie n'est qu'une grippette, etc. Bon, il se passe au Brésil des choses terrifiantes en ce moment.
Merci David Le Breton d'être venu évoquer le masque et la marche, surtout marcher la vie, l'art tranquille du bonheur.